Sud Radio, il est minuit. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles, bon 1er mai.
Mais oui, ça vous a fait plaisir mon petit brin de muguet.
Et le mien, mon bouquet mais que oui. Je vous ai offert de
ça
muguet.
Coûte cher, hein,
oui, ça te coûte très cher le muguet, il faut bah le dire. Oui. Puis il n'est pas très en avance cette année. Hein,
oui, absolument.
Hein. Bah, pour le 1er mai, on a décidé de ne pas travailler. Donc
ah,
de,
oui.
Non, de vous proposer...
revenir sur des meilleurs moments.
Voilà, de revenir sur les meilleurs moments de l'émission avec une thématique travail et argent. Et on va commencer, donc on avait reçu Marc Simoncini et Stéphanie Delestre pour l'émission Qui veut être mon...
Marc Simoncini qui nous a dit que ça serait sa dernière émission de radio.
Absolument. Hein. Qui veut être mon associé sur M6, ce sera dans la deuxième partie, mais tout de suite c'est Sébastien Thoen. Alors qui s'était fait virer de Canal+, qui revient à Canal+, et qui était venu nous présenter Merci Patron.
Petite fiction documentaire rigolote qu'on peut continuer à voir d'ailleurs sur MyCanal.
Merci Patron avec Sébastien Thoen.
Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.
On a hésité avant de l'inviter, mais
comme beaucoup de gens, voilà. Comme mes beaux-parents notamment.
Sébastien Thoen.
Ah, il y a une Madame Thoen.
Bah. C'est un sous-entendu.
Ah non, mais. Il y a une
Madame Thoen.
Elle fait quoi dans la vie, Madame Thoen?
Elle fait des vêtements, ça s'appelle Suzy Winkle, c'est super bien.
C'est
je vous conseille de le porter ou pas?
Non, ça c'est Lylan Scott. Je place tous mes sponsors.
Oui,
on dirait McFay et Carlito Squeezie. Vous avez vu mon pull? Oui, merci Lacoste.
Sébastien.
Et elle vous a aidé dans les moments difficiles, votre femme?
Alors attendez, c'est quoi l'émission en fait?
C'est
Parole de Fréquence Star.
Non, mais je découvre qu'il y a une Madame Thoen.
Oui, oui, bien sûr qu'elle me soutient, bien sûr. Puis elle a pas. Oui, ben tant mieux.
Et Gilles, il veut juste des reprises.
J'ai bien vu avec Olivier Mine, c'est scandaleux. Vous savez, quand il balance sur le père Fouras. Ah non, je confonds, c'est Ardisson et Nouna. Moi, c'est pareil.
Est-ce que. Est-ce que votre femme vous a quitté quand vous avez été viré de Canal+, voilà,
non, mais quand je quitte Canal+, effectivement, après je suis venu vous voir,
ouais,
je faisais pas trop le malin non plus, je faisais le malin, puis en même temps, vous savez, je suis un homme libre, pas de diplôme, pas de carrière, bref, j'ai enchaîné tout de suite, enfin j'essaie d'enchaîner, je me suis pas apitoyé sur mon sort, j'ai rencontré d'autres gens, et puis
c'est
je savais que j'allais revenir.
C'est les gros staffs qui vous ont sauvé quand même, financièrement.
À tous les niveaux, artistiquement, humainement, même moi, j'envoie un texto à Laurent Ruquier pour lui dire, bah écoute, c'est gentil de parler de moi de temps en temps, si tu veux que je vienne faire les grosses têtes, ça ferait plaisir à ma maman. Et de là, il vient, donc moi, je vois tout ça de loin, puis après, je vois que le sketch qui a posé souci à l'époque, lors des pronos, il explose en audience, je passe pour un mec drôle, passe pour un mec de gauche, mais les gens pensent que c'est un sketch de gauche, enfin, tout est fou. Mais bon, écoute,
c'est
puis après,
oui, c'est ça, on rappelle que vous avez été viré, écarté de l'antenne, comme on dit.
Ouais,
comme
c'était
ça.
Un petit RTT de 3 ans,
voilà,
c'est pas grave.
Et parce que vous aviez réalisé
Pascal
Pro. Non, c'était une parodie de l'heure des pros.
Oui, c'était une parodie, à l'époque, ils n'avaient pas compris, ils pensaient qu'on allait rentrer en guerre là, contre Pascal Pro, alors que nous, on l'aime personne, on nous connaissait Action Discrète avec mes amis Julien Cazard et Thomas Séraphine, à part vous, évidemment, Valérie Expert.
Oui,
et merci
sûr.
Pour vos compliments.
Et puis surtout, on a pu s'apercevoir que vous aviez plus de talent que Malik Bentaler.
C'est bien pour balancer à chaque fois, c'est ça. D'accord. Oui. Bah, c'est bien, je le ferai pas comme ça. Il a fait un sketch aussi.
Oui.
Bah, lui, le sketch est plus sur l'imam Chalgoumi
que sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans?
Oh, bah, j'ai fait mon potager, j'ai repeint ma salle de bain, j'ai
vous
fait comme tous les Français.
Vous avez cousu les vêtements de votre femme?
J'ai Suzy Winkle, il y a un compte Instagram très bien. J'ai écrit un livre quand même pour raconter aussi même les coulisses.
Mais pour dire du mal de ce que vous aviez vécu, et puis là vous revenez sur Canal+, donc j'imagine que tout le monde vous dit alors, bah enfin Sébastien Thoen, qu'est-ce qui se passe?
Bien sûr, non, mais alors, dans le livre je dis pas du mal, je dis tout en fait, j'en rigole, je dis que c'est une énorme caméra cachée et j'en suis à la fois victime, et c'est marrant parce que moi j'aime les caméras cachées, j'en ai fait pendant 20 ans, et après je suis pas non plus très heureux parce que c'est pas une bonne nouvelle, même pour ce qui s'est passé à l'intérieur de Canal, et puis entre temps voilà, je l'ai déjà dit chez la Salamé, j'ai déjà dit à l'ONU, j'ai déjà dit partout, mais de l'eau a coulé sous les ponts, moi j'ai rebondi, les gens qui à l'époque aussi
vous ont soutenu et ont été virés.
Oui, mais c'est des gens qui n'allaient pas. De toute façon, honnêtement, je dis pas ça pour minimiser le truc. Mais c'est vrai que depuis un moment, Canal séparait aussi de gens parce qu'il y avait moins d'émissions, la Ligue 1 allait disparaître. Enfin, moi, quand j'arrive au sport en 2019, je le répète, je croise que des gens qui me disent oh là, on est encore là cette année, mais ça craint. Ouais. Non pas qu'il y ait une envie de licencier tout le monde, c'est juste qu'il y a moins d'émissions. Et on voit bien, Canal aujourd'hui, c'est une plateforme.
Et, voilà. Et du coup, votre femme fait des vestes réversibles?
Ouais. En fait, quand je parle de ce qui est intéressant, vous avez rien à foutre.
C'est qui le stagiaire? Pourquoi pas les stagiaires?
On a au moins un auditeur qui connaît et qui me dit super fringue. Donc c'est une promotion
pour finir, quand je reviens après, quand même, voilà, on a tous rebondi aussi. Donc voilà, après moi j'étais pas très à l'aise. Et honnêtement, quand Maxime Saada, que j'embrasse, mon patron qui me faisait déjà bosser il y a 10 ans, et qui me rappelle, c'est celui qui me rappelle, ça me touche parce qu'il voulait pas forcément que je parte. Et il me dit, on a déconné il y a 3 ans, viens. on fait table rase du passé, on se calme, on s'est apaisé, revient se marrer, les autres amis ont rebondi. Enfin, on n'est pas tous à l'aise, et ça, humainement, ça fait plaisir. Mais on se dit, voilà, de l'eau a coulé sous les ponts, et on fait autre chose, et tant mieux, on passe à autre chose. Et puis, je me refaire virer dans un an, et ce sera mythique.
Mais alors, du coup, est-ce que vous vous mettez des limites? Pose la question.
Des limites, c'est-à-dire
C'est-à-dire que dans le programme, dans ce que vous faites, là, il y a Merci Patron. C'est...
Vous savez que je suis stratégique, je fais surtout des blagues aux grosses têtes. J'enchaîne hein, quand même les blagues. J'en fais beaucoup plus que certains. On ne demande pas à Florence Foresti ou à Jamel Debbouze pourquoi ils ne font pas des blagues sur CNews. Mais peu importe, mais surtout, moi, je ne suis pas en guerre. Moi, je fais des blagues sur un truc qui me fait marrer à un moment. Je n'ai pas de limite. Non, je fais des blagues sur le moment, mais encore heureux. Il n'y a pas un alpha et un oméga de la blague. Il y a des gens qui font pas de blagues sur les médias, les chaînes infos, sur ce que vous voulez, et qui sont très drôles. Donc on n'est pas obligé. Vous demandez pas aux inconnus, pourquoi vous ne faites pas trois blagues sur les chasseurs? Ils ont fait un sketch, c'était très bien, ils vont pas en faire 40 non plus. Après, moi, franchement, je ne m'interdis rien.
Ouais, c'est ça.
Je regarde la com de Canal, hein. Je ne m'interdis rien. Et je suis bien payé, et c'est la liberté. Mais non, mais tout va bien, sinon je ne serais pas revenu. Et vous avez vu, Merci Patron.
On se moque de moi.
Et je me moque de tout, des médias, de Canal.
Déjà, le titre est assez provoque. Vous êtes fait virer, vous revenez avec un Merci Patron.
Oui, mais c'est ça qui est drôle. Là, pour se marrer, la Terre explose dans deux ans.
Alors, comment c'est né, Merci Patron? L'idée, c'est quoi?
En fait, moi, je voulais pas forcément parler de mon retour à Canal, qui pour moi n'intéressait que moi et mon banquier notamment. Mais en fait, là-bas, c'était marrant de parler de mon retour à Canal et dire en gros, je reviens, évidemment, je galère, comme il y a 10 ans, parce que j'étais bien à Canal, c'est ma famille, c'est ma maison, mais bon, bref, je faisais des trucs par-ci, par-là. Et là, en fait, je crois, je galère, j'ai pas de plan, et je crois apprendre, mais c'est un quiproquo, que je deviens directeur des programmes, alors que c'est pas moi, en fait.
Non.
Malheureusement,
non.
Ou pas. Enfin, heureusement pour l'abonné, malheureusement
donc
pour moi.
Donc vous imaginez des programmes, et ça c'est un délire
total.
Déjà,
il y a des félicitations.
Oui, ça vous a plu.
Il y a Pascal Praud qui lui dit « So happy de ton retour ».
Tu m'étonnes.
Il y a Pénélope Fignon qui vous dit « Bravo mon chou ».
Ah bah oui.
Il y a Dom Farrugia qui vous envoie un petit SMS. Et puis, évidemment...
Sofia Coppola, Bigard.
Il y a Bigard. Il y a même Vladimir Poutine qui vous félicite.
Oui, qui est un ami de la famille.
Et exactement. Et vous avez également... j'ai un trou. Donc,
Pierre Palmade qui dit viens fêter ça à la maison.
Il y a Patrick Sébastien, il y a plein de guests.
Oui, parce que quand j'apprends ça, même si c'est faux, mais ça on le sait, mais bon, moi j'y crois en tout cas pendant trois jours et je me dis, je vais monter mon équipe de rédaction parce que comme ça j'irai à Canal quelques jours plus tard pour leur dire vous avez misé sur le bon cheval. En trois jours, j'ai pensé à plein de concepts et on va me voir élaborer des concepts avec une équipe formidable.
Dans un magnifique bureau.
Magnifique bureau, estampillé Canal Plus. Et je vais aussi vers des gens, des collègues de travail. Voilà, il y a JP Zadi, il y a Gérard
Junot. JP Zadi qui est en alsacienne.
Alors... parce que je dois trouver la nouvelle série Canal, donc je vais voir le roi de la série, le héros de Lupin.
Je me suis posé une question, il y a une magnifique guirlande de pretzels qui sont... Alors vous l'avez rajouté dans le décor ou c'est possible, déjà en fait, dans la brasserie?
Alors je vais voir JP Zadi parce qu'en fait il doit m'aider à trouver la nouvelle série, on va le voir dans un restaurant alsacien, parce que j'apprends qu'il est alsacien en fait. Donc effectivement, on a customisé un restaurant alsacien, on a mis des trucs de bretzel, mais lui il l'adore hein. Quand il trempe là, sa choucroute dans la bière et qu'il me dit en même temps faut faire ça comme série et ça les abonnés de Canal vont adorer, il est sincère, hein.
Et on va pas trop dévoiler parce que ce sont l'éclat de rire, il vient de la surprise aussi. Donc il faut pas trop raconter
l'éclat de rire, hein, pas les éclats, vous avez dit
c'est l'éclat de rire en institution. Ce que je veux dire, c'est quand on éclate de rire, c'est qu'on est surpris par donc on va pas trop dévoiler.
Et ma psy, par exemple. C'est improbable. C'est super. Elle est géniale dedans.
On peut dire, il y a Baptiste Le Caplin qui est très, très, très drôle. Gérard Jugnot, c'est une séquence aussi à hurler.
Balance sur Rendez-vous Interinconnu. Il dit que tout est pipoté. Absolument. Ce sont des figurants. Les pygmées ne sont pas des vrais pygmées. Ce sont des figurants, des choristes.
C'est vous qui avez écrit le.
Évidemment, comme tous les comiques français, je me suis entouré d'auteurs américains. Non. J'ai écrit avec Alexandre Gonzalez, que j'embrasse, qui était co-auteur là-dessus, et Baptiste aussi Le Caplin a amené quelques idées. C'est hyper bien passé. On a été un peu dans l'urgence, qu'il fallait quand même écrire vite pour tourner en novembre et que ça passe avant Noël, pour qu'il y ait un beau Noël pour les abonnés.
Alors, on me demande, est-ce que c'est en clair? Non, ce n'est pas en clair.
Il faut quand même payer de temps en temps. Je sais que c'est compliqué dans cette vie, mais il faut payer parfois.
C'est justement pour ça que Canal Plus produit des programmes comme cela pour attirer des abonnés.
Ça va finir sur Pornhub ou sur Jacqueline Michel, mais pas longtemps.
En tout cas, c'est vraiment très drôle. Stéphane demande, Merci Patron, c'est un hommage au Charlot ou à Merci Bernard ou à Bolloré?
À tout le monde, à tous les patrons, parce qu'on aimerait tous être patrons, parce que clown, c'est marrant, animateur, c'est sympa, mais patron, c'est mieux. Non, c'est un hommage évidemment à la chanson des Charlots.
J'ai adoré la réentendre.
Elle est super, cette chanson.
Adoré,
elle est super. Et puis, du coup, on a acheté les droits, mais j'ai chanté par-dessus. Voilà. Et c'était un plaisir parce que évidemment c'est. Mais non, il y a un 8ème degré, il y a plein de trucs, mais tant mieux, et puis on en rigole tout ça.
Alors est-ce qu'il y en aura d'autres?
Ah bah ça il faut demander à la. Oui oui.
Ah, moi, pour l'instant c'est une one shot.
Pour l'instant c'est un one shot. Moi j'aimerais bien faire la entre guillemets la suite, mais sur autre chose, sur les régions par exemple.
C'est-à-dire?
Bah je sais pas, lancer Canal Plus Région. Faire merci région. Voilà, je donne tout là. Si je le fais pas, j'aurai l'air con. En plus, c'est pas grave. C'est enregistré de toute façon.
Il y avait les 60 ans de Canal Plus Afrique aussi. Dans
qui sont, on en parle dans le merci patron. On dit dépêche-toi, il y a les 60 ans de Canal Plus Afrique. Dépêche-toi
et
de
c'est
balancer.
Ce qui provoque le cataclysme.
Et puis, pour les coulisses de nos éditeurs, il y a eu une conférence de presse de Canal Plus richissime avec du champagne à tous les étages et autres. Il y a un an, enfin, dans l'été dernier. Et vous vous êtes fait passer pour un journaliste. C'est-à-dire vous êtes arrivé en même temps que les journalistes. Ouais. Vous aviez un chapeau, une moustache, et alors personne ne vous a reconnu.
Bah, ouais.
Alors quelle sensation vous avez vécu d'être avec les journalistes? Vous parliez avec eux?
Bah, que personne ne me reconnaisse, c'était un sentiment que je connais. Mais là, genre, j'avais un vieux chapeau, une moustache, et j'étais un peu planqué. Et du coup, bon, ils ont dû dire, c'est qui ce pauvre type avec son énorme chapeau et sa fausse moustache? Et après, je posais une question en mode, voilà, que va devenir Sébastien Thoen, le roi du LOL, le magicien de l'humour, et voilà, et ça permettait de désamorcer déjà ça et de se marrer. Ouais, c'était sympa.
Est-ce qu'on vous a proposé LOL?
Non, moi je suis pas assez drôle, pas assez connu, pas assez rien du tout.
Vous dites ça avec de l'amertume?
Non, moi je le ferai pas forcément.
Vous avez pas la carte?
Non, la carte de quoi? La carte vitale. si, comme tous les Français. Non, mais on m'a pas proposé.
Mais super dans LOL.
Oui, pourquoi pas? Moi, tout ce qui peut me faire rire et faire marrer les gens, sincèrement, c'est très basique ce que je dis, mais ça me ferait marrer de le faire. Mais ils m'ont toujours pas appelé, non?
Et c'est alors toujours nos auditeurs. C'est
alors
quoi,
que LOL qui rissus, je le propose dans Merci Patron.
Absolument.
Très très
absolument.
Drôle ça. Ouais, imagine Pierre Ninet avec les labectiles, ce serait sympa.
Un film, une pièce de théâtre écrite par Ruquier, pourquoi pas? C'est quoi le futur pour vous?
Ah Laurent, c'est la famille, évidemment. Le futur, non, le futur, c'est continuer à faire des choses sur Canal, continuer les grosses têtes aussi. Là, ça m'a touché que Canal me dise, tu peux continuer les grosses têtes, ça nous fait marrer, toi aussi.
Laurent Ruquier avait eu des mots très très élogieux à votre égard en disant que vous étiez vraiment l'un des dignes héritiers, vous lui faisiez penser à Kersauzon, je crois, ou à...
Physiquement, oui.
Et à Pierre Bénichoux.
Oui, non, c'est très sympa, oui, moi je m'éclate, franchement, et honnêtement, pour ce que je fais, modestement, un petit artisan du rire, Canal Plus et les grosses têtes, pour moi c'est top, c'est deux endroits où je fais ce que je veux.
Mais pièces de théâtre, film, pourquoi pas, certains demandent...
Non, le cinéma c'est trop compliqué, trop d'argent, j'ai pas le temps. Il faut attendre des plombes pendant les tournages, j'ai pas d'agent, j'ai pas de talent, j'ai pas de carrière. Oula, ça va loin. Non, mais évidemment, on va continuer sur Canal, on va faire l'agence tourisme au printemps prochain.
C'est drôle.
Avec Batteur qu'on annonce, non merci patron, en fait, la suite. Et en fait, ça va être une série de documentaires touristiques ou rigolos où Gérard Jugnot nous envoie avec Baptiste Le Caplain à travers les villes d'Europe pour amener des guides du routard un petit peu exclusifs, un peu rigolos et tout.
Et Thomas Séraphine continue avec vous, la bande d'action discrète. Vous reformez...
Le père Cazard, il a RMC. Ouais. Thomas Séraphine, il fait des choses... Mais même, il était resté encore à Canal, il est à Golfe Plus. Là, il est dans Merci Patron. On refait des trucs parfois, oui, on fait des choses. Et puis, eux, ils sont contents pour moi, parce qu'ils écoutent, c'est improbable, c'est peut-être ta plus belle caméra cachée. Donc, fais-toi plaisir de mon retour à Canal. Ouais. Et voilà, ils font d'autres choses aussi à côté.
Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas votre humour?
Mon humour?
Oui, qui est un peu décalé. Est-ce que des fois vous dites, il y a des gens qui viennent vous voir ou c'est compliqué à notre époque de faire de l'humour que vous avez?
C'est pas compliqué.
Très sarcastique.
Je pense que c'est pas compliqué, surtout que maintenant il y a plein de médias, il faut juste avoir envie. Le problème c'est que, après il faut faire un choix. Oui, quand tu fais certaines blagues, c'est que tu feras pas forcément de cinéma ou que LVMH va pas te filer des fringues ou Lacoste, c'est sûr. Maintenant, non, après les gens pensent que t'es militant. Par exemple, là quand on a fait le sketch sur l'heure des pronos, les gens pensaient que c'était un sketch militant, vraiment qu'on se moquait du fond, de la forme, de tout. Alors que, mon esprit avec Action Discrète, c'est qu'un dimanche, ont été taxés de mecs de droite, le dimanche d'après de mecs de gauche, le dimanche d'après d'athées, le dimanche d'après d'ultra-intégristes religieux. Nous, en fait, on va sur ce qui nous fait marrer, enfin, moi ou mes copains,
Vous avez envie de déconner tout le temps. Il y a un auditeur qui nous dit bonjour Sébastien, est-ce qu'un
bonjour,
jour on verra...
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Est-ce qu'on verra votre côté non déconneur? Car moi, ça m'intéresse, je pense que c'est plus profond. Est-ce qu'il y a un Sébastien Cohen?
Il est très ambitieux, c'est gentil, ça me touche.
Est-ce qu'il y a un Sébastien Cohen?
Oui, c'est quand même Merci Patron.
C'est dans Merci Patron.
Non, mais il y a mon livre déjà où je parle de moi, évidemment, de mon enfance, à la DAS, de tout ça, c'est tout terrible. Et moi je peux parler aussi sérieusement de choses. Par exemple, quand on parle de ce qui s'est passé à 3 ans à Canal, notamment, c'était glauque quand même. Bon, après, c'est passé, passons à autre chose, et tant mieux. Moi j'ai 30 ans à Canal, j'ai pas bloqué sur un événement.
Vous avez envie de rire?
Oui. Bah oui, écoutez, l'époque est quand même très très triste. Alors heureusement qu'il y a des gens comme moi pour égayer la vie des gens.
Absolument, c'est très bien dit. Et ce
qu'est-ce
sera
que
le
c'est
mot
beau,
de la fin.
C'est une citation, ça sera ouais, sur ma tombe.
Alors
hein,
on peut dire que c'est écrit donc par vous et Alexandre Gonzalez, que c'est réalisé par Maxime Chardin et Cyril Tellen.
Historique réalisateur d'Action discrète, formidable.
Et que vous, on va retrouver.
Et fils de Stone.
Oui, je suppose.
Je le connais bien.
Maxime Chardin est le fils d'Éric. Ouais. Ouais,
Jérémy Ferrari, Gérard Jugnot, Chantal Latsou, Baptiste Le Caplin, Julien Lefrère.
Il y a Tariq Ramadan, il y a Jordan Bardella, il y a vraiment du bon monde.
Et le professeur Raoul. Voilà.
Ah oui,
en guest. Allez, merci beaucoup. Puis
merci,
on vous attend pour la suite, Sébastien Toen.
Mais moi, je reviens quand vous voulez.
Et on vous aime beaucoup.
Et vive la France.
C'était Sébastien Toen et merci patron. Dans un instant, Marc Simoncini et Stéphane Annie de Lestre, deux investisseurs de l'émission Qui veut être mon associé sur M6.
Sud Radio à Toulon en DAB+.
Sud Radio.
J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. On s'apprivoise au jour le jour. J'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face. Entre le feu et la glace, au-delà de nos différences. On n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps qui passe, au-delà de nos différences.
Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.
Alors Gilles, on va recevoir Marc Simoncini et Stéphanie Delestre.
Il faut dire que à chaque fois qu'une invention passe dans cette émission, même si elle n'est pas choisie par les investisseurs,
c'est une
fenêtre incroyable. Et derrière, ils explosent les ventes. Mais ils ont investi dans des affaires qui leur tiennent à cœur.
Ils vont nous raconter un petit peu la mécanique. Et puis notamment, ils étaient venus pour nous parler de l'arrivée de Tony Parker.
Et oui.
Tout de suite, Marc Simoncini et Stéphanie Delestre.
Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzman.
Marc Simoncini, on vous connaît évidemment pour avoir créé Mythique, entre autres, ce vélo absolument incroyable.
Ah, il est incroyable.
Vous êtes fondateur de Angels, une entreprise donc, qui a pour objectif de révolutionner la mobilité urbaine, je lis exactement. Ça marche plutôt très bien, apparemment. Hein, vous êtes bien parti. Et puis Stéphanie Delestre, vous êtes investisseuse donc, dans cette émission qui veut être mon associée, mais vous êtes surtout une entrepreneuse. On dit entrepreneur, entrepreneuse ? Entrepreneur,
on dit entrepreneur.
De succès, cool. Vous avez une plateforme numérique de recrutement, CAPA, Q-A-P-A. Qu'est-ce que j'ai dit Q-A ? Non, Q-A-P-A. Et vous êtes une entrepreneuse à succès et vous avez été sélectionnée pour faire partie de ces investisseurs. Voilà, avec Tony Parker qui vous a rejoint cette année, le petit nouveau. Est-ce qu'il a un plus par rapport à vous quand il investit ? Est-ce que quand vous êtes plusieurs à vouloir investir sur un projet. Est-ce que ça plaît Tony Parker?
Si c'est un projet qui s'adresse au grand public, avec des composantes potentielles aux États-Unis, c'est sûr qu'on a du mal à lutter. Quoi.
Ouais. Et moi encore plus, parce que finalement, il a quand même une notoriété incroyable. Donc c'est vrai que quelquefois, je me suis retrouvée un peu en duel contre lui et il gagne assez souvent.
Mais est-ce que justement les personnes connues, les investisseurs qui sont célèbres, qui investissent dans des restaurants et autres, sont des bons gestionnaires ou en fait les banques font confiance parce qu'ils se disent on va travailler avec quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'on est pas plus, est-ce que les banques sont pas plus sympas avec quelqu'un qui connaît et qui va peut-être planter une boîte? On a vu à l'époque de la rue avait ouvert des restaurants qui ont pas duré longtemps. Qu'est-ce que vous pensez des stars investisseurs?
Mon grand-père il disait il y a pas de meilleur moyen de perdre son argent, l'argent qu'on a gagné en faisant son métier, qu'en essayant de faire le métier des autres. Et il avait raison. Donc si vous dites je suis sportif et je vais ouvrir un restaurant et m'en occuper. Ouais. Vous allez vous planter.
Bien sûr.
Maintenant, si vous prenez un gars dont le métier c'est de faire des restaurants et que vous amenez votre image en plus, forcément là, ça va beaucoup mieux.
Ouais.
Donc faut savoir. C'est pas parce qu'on a réussi dans un domaine qu'on est bon partout. Ouais. C'est un énorme problème des gens quand ils sont jeunes et qui réussissent.
Mais vous, c'est un peu votre cas, non?
Ah oui, mais j'ai beaucoup échoué. Oui, mais parce que vous vous rappelez que des quelques succès que j'ai faits. Si vous aviez vu le nombre d'échecs au milieu où j'ai cru que j'allais y arriver ou j'y suis pas arrivé, c'est
ça qu'il faut regarder.
Mais beaucoup plus que des succès. Mais beaucoup plus. J'ai beaucoup plus raté de choses dans ma vie.
Il faut tenter, essayer. C'est le conseil que vous donnez.
Si vous savez vous relever à chaque fois que vous tombez, oui. Sinon, faut arrêter.
Et quand vous ratez, vous vous dites que vous n'avez pas eu du nez, vous vous dites que c'est...
Je dis que je suis un abruti d'avoir essayé, mais que ça m'avait rendu heureux. J'ai fait des dameuses de piste qui pesaient 10 tonnes pour que les Français aient une dameuse de piste. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'y connaissais en dameuse de piste? Évidemment, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais ça a été une perte de ma vie où j'ai appris beaucoup de choses sur l'industrie. Ouais. Et 10 ans plus tard, ça m'a permis de faire des vélos de 17 kilos.
Et quel rapport entre la dameuse et le vélo?
C'est de la mécanique, c'est des boulons, c'est des écrous, c'est des process industriels. D'accord. C'est très compliqué. Donc finalement, j'ai appris. Donc quand on se plante, mais on peut apprendre.
Qu'est-ce qui vous a séduit l'un et l'autre? Alors Marc Simoncini, vous, ça fait plus longtemps, on va y revenir. Mais vous, Stéphanie, vous êtes arrivée dans cette émission qui est installée depuis 4 ans. S'afficher comme quelqu'un qui a de l'argent, qui est prêt à investir, c'était quoi votre motivation?
Alors d'abord, j'étais une grande fan de l'émission, une grande fan de Marc. Donc bon, première
vous
motivation, on s'était croisés,
mais pas...
On s'était croisés, mais on se connaissait pas. Donc première motivation, bien sûr, connaître Marc. Plus sérieusement, je trouve que c'est incroyable qu'en France, on ait une émission qui parle d'entrepreneuriat en prime time, qui invite des entrepreneurs. Donc le fait qu'on m'ait proposé d'y participer, j'ai trouvé ça vraiment génial. On a tous des points forts et même peut-être des façons de travailler ou des façons d'investir très complémentaires, mais souvent aussi différentes. Et c'est ça qui m'a fait triper. Après, moi, l'argent, oui, j'en ai, mais je suis partie de rien.
Ouais.
J'ai commencé à bosser à 14 ans. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Hein. Chez CAPA, c'était 7 jours sur 7, entre 60 et 90 heures par semaine, comme beaucoup d'entrepreneurs en France et d'artisans,
bien sûr,
d'ailleurs.
Bien sûr.
Hein. Parce que souvent, on croit qu'on met souvent en avant les entrepreneurs de start-up, mais les Français en moyenne travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que 35 heures. Et donc, ça me faisait plaisir de montrer que on peut partir de là où je suis partie, y arriver et montrer des valeurs comme l'entrepreneuriat, l'audace, le courage, le travail. Je trouve que c'est top, surtout en France en ce moment.
Oui, mais aujourd'hui, les patrons sont mal vus. Gagner de l'argent, c'est mal vu.
C'est pas la même chose, patron et entrepreneur. Moi, ça fait...
Quelle est la différence?
Ben, les Français la font très bien. Un patron, c'est un salarié qu'on a choisi par ses qualités, qui dirige une boîte qu'il n'a en général pas créée. Et un entrepreneur...
Patron de Total.
Patron du CAC 40, ce n'est pas des mecs qui ont monté leur boîte, la plupart du temps. Ceux qui sont vus comme patrons, c'est eux. Je ne dis pas que c'est juste. C'est comme ça qu'ils sont vus. Puis il y a l'entrepreneur, le gars qui a monté sa boîte, qui, de fait, est patron de sa boîte ou des boîtes qu'il a montées. Et maintenant, je peux le dire, j'ai 60 ans, j'ai commencé à 20 ans. Je n'ai jamais eu une remarque, entre guillemets, désobligeante, parce que j'étais un patron.
Un salaud de patron.
Qui devrait d'ailleurs pas être péjoratif comme mot, parce que les patrons de ces boîtes, c'est des gars qui ont des capacités extraordinaires et qui créent. C'est la Formule 1 des entrepreneurs. Mais bon, ils sont mal vus. Ça, après, c'est le problème de la France.
Qu'est-ce qui vous a plu la première fois quand on vous a proposé le concept?
Alors moi, j'ai dit non pendant des années. Il y a eu plein de concepts qui ont été imaginés. Moi, j'en avais fait un peu sur iTélé, comme ça, où je recevais des startups. Mais ce que j'aimais pas, je vais revenir peut-être à ce dont vous vouliez parler, c'était le fait de dire à un gamin, non, ton truc marchera pas. Ouais. Je voulais pas rentrer dans un système où on élimine des candidats, où on leur dit non, ça marche pas. Et donc j'avais dit non à tous les concepts. Et ce Shark Tank a été aux États-Unis où c'est très violent.
C'est très violent.
Il a été complètement réadapté en France. C'est la même chose, sauf que nous on essaie et on l'aide par nature, très bienveillant. À partir du moment où j'ai dit c'est le concept avec de la bienveillance, là c'était mon karma et j'ai accepté de le faire.
Moi, ce qui me frappe dans l'émission, c'est la créativité, l'imagination de tous ces entrepreneurs, c'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai que je vous disais hors antenne, celui qui fait le livre des SMS, je me dis quelle idée incroyable, quoi. Il a eu l'idée de prendre des SMS, des échanges de SMS qu'il avait eu avec sa petite amie de l'époque, et puis d'en faire des petits livres. Et en fait, c'est une entreprise qui fonctionne plutôt pas mal, mais c'est des idées de dingue.
Ça a l'air tellement simple, se dit pourquoi on n'y a pas pensé avant.
Alors, est-ce que vous avez gagné de l'argent, Marc Simoncini, depuis le début, depuis ces 4 ans?
Alors là, il faut abattre un mythe, qui est le mythe général du business angel. Business angel, quand il rentre dans une start-up et qu'il gagne de l'argent, c'est extrêmement rare. Et c'est surtout très long. La moyenne de sortie d'un investissement en seed, c'est-à-dire très jeune dans une entreprise, c'est entre 12, 14 et 15 ans. Ouais. Donc personne, à part faire un coup de temps en temps, coup de bol, personne ne peut dire qu'à la sortie, il gagnera de l'argent avant d'avoir attendu 15 ou 16 ans. En général, on perd 80% de l'argent qu'on a mis dans les 5 premières années. Et ensuite, avec les boîtes qui restent, on essaie de rattraper ce qu'on a perdu et peut-être un jour gagner de l'argent. Vous voyez, moi j'ai créé Jaina il y a 14 ans, je ne sais toujours pas si je vais gagner de l'argent ou pas à la sortie. Donc non, ce n'est pas un métier où on gagne de l'argent facilement, c'est une absurdité de dire ça aux gens. Il faudra attendre 15 ans et beaucoup de talent pour être sûr d'arriver à faire dans
la motivation, c'est laquelle?
C'est la transmission. J'ai toujours transmis ce que je fais, ce que les conseils à des jeunes. Tout.
Un auditeur a une question. Il dit « J'ai souvent de bonnes idées d'invention ou de procédés, mais pas les moyens ou la possibilité de les mettre en œuvre par manque de temps ou d'argent. Alors pourquoi ne pas créer une plateforme d'idées qui pourrait être prise par des concepteurs ?»
Elle déborderait, parce que moi, chaque fois que je vais faire pipi, j'ai une idée, ça doit être son cas, donc ça déborderait.
Oui, il est ingénieur, il faut trier derrière. Stéphane, c'est le tri de la bonne idée. Et comment
il n'a qu'à la publier, puis ça attirera
Et d'ailleurs, on dit souvent dans le milieu des investisseurs, des VC, etc., que l'idée, finalement, elle ne compte pas. Ce qui est important, c'est l'exécution. Et donc, on est typiquement dans le cas de ce monsieur.
Oui, c'est-à-dire que des idées, tout le monde en a. Après, c'est de savoir comment la mettre en œuvre et comment l'exécuter.
Exactement.
L'émission, elle a évolué, je trouve, depuis le début. Là, c'est peut-être vous, Marc, vers qui je veux me tourner. C'est-à-dire que l'émission, elle est devenue plus pro, plus professionnelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis 4 ans, au départ, on présentait un projet, il y avait de l'échange, c'était... amical, et là il y a un côté qui est plus pointu parfois, tout en restant très grand public, c'est vrai ou pas?
Alors on a changé deux choses au fil du temps. C'est de l'optimisation. La première chose, c'est que avant le jury ne parlait qu'à l'entrepreneur. Donc le dialogue était comme ça. Du coup, il n'y avait pas de rebond entre les investisseurs. Et il y a 2 ans, j'ai dit non, mais il faut qu'on se parle entre nous, parce que c'est là que ça rebondit. Et donc, de fait, c'est là que ça devient plus technique, parce qu'on peut se poser des questions plus techniques. Et donc, le débat est un peu élevé au sens technique. Et la deuxième chose, c'est que dans la sélection des projets, c'est de la télé. La télé, c'est plutôt des histoires de gens qui viennent entreprendre. Et si c'est une belle histoire familiale, mais que le projet n'a aucun sens, c'était compliqué de donner notre avis pendant une heure. Donc, à la fois, la qualité des dossiers s'est élevée, et aussi la qualité des échanges. Quand je parle avec Stéphanie, on va employer une terminologie à nous, rebondir parce qu'on est professionnel. Et du coup, ça élève un peu la technicité du débat.
Est-ce qu'il y a de la place pour l'humain, Stéphanie? C'est-à-dire, Gilles, tout à l'heure, parlait d'émotion. Quand on investit de l'argent, est-ce que... Vous pouvez être touché, on voit il y a des gens qui sont extrêmement touchants. Comment vous faites la part des choses où vous pouvez être sensible à un projet, presque avoir pitié, le mot est pas bon, mais de l'empathie. Question un peu alambiquée, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Pour ceux qui ont regardé, il y a une femme par exemple avec ses poussettes et vous étiez là, et ses poussettes. On sait que c'est sa dernière chance. Elle a tout investi, elle est au bord des larmes,
elle a tout
hypothéqué pour son invention. Et si vous ne vous investissez pas, et ben elle vous fait comprendre que tout va mourir en elle.
Cette empathie, en fait, elle est obligatoire parce qu'on a tous été ou on est tous encore entrepreneurs. Donc en fait, on est tous passés par là. Et des noms, on en reçoit tous 99 fois sur 100. Et c'est vraiment, comme le disait Marc d'ailleurs, très rare quand on nous dit oui pour un recrutement, oui pour investir dans notre boîte, oui pour aller trouver un client qui va dire oui, je vais partir avec vous. Donc en fait, on est habitué à vivre ces montagnes russes là permanentes. Moi, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que quand je suis arrivée sur le plateau, j'avais quand même peur d'abord des quatre mousquetaires parce qu'ils se connaissent par cœur. Puis ils sont super bons, quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, l'émission est faite de telle façon que... D'abord, on ne connaît rien, je le précise.
Il faut le re-redire, voilà. T'as raison.
Moi, je suis arrivée...
Vous n'avez jamais les bilans de la société.
On ne sait même pas de quoi ça parle.
Entre chaque entreprise, on nous fait sortir du plateau, nous, le jury.
Ils mettent le décor.
Ils changent le décor. Et 20 minutes, une heure, quelquefois après, parce que quelquefois, il y a des décors qui sont plus compliqués, on nous fait revenir. Et là, on découvre le décor. Donc, on se dit, tiens, c'est marrant, il y a des poupons, par exemple. Donc, on risque de parler d'un service pour les gens.
Mais vous n'avez aucun bilan financier, vous n'avez pas un petit résumé de la société.
Le thème de la start-up, pas les entrepreneurs. Je vous le jure, on ne connaît rien. Et donc, en fait, sur votre question sur l'humain, en fait, ce qu'on voit en premier, c'est l'entrepreneur et ce qu'on écoute, quoi. Et nos sens sont vraiment tous très en éveil parce que, on doit aller, doit finalement prendre une décision très très rapidement.
Mais c'est un engagement ferme.
Non.
Ouais. Non, il y a des due diligence.
Vous avez un secours derrière.
Derrière, il y a ce qu'on appelle les due diligence. On va checker la réalité du discours qui nous a été proposé. Si le discours est cohérent et si ce qui nous a été dit est vrai, on y va. Et si, par contre, c'est arrivé plein de fois, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, on peut dire non, mais ça marche pas. Ça n'empêche pas de faire un autre deal, différent ou pas de deal du tout.
Vous connaissez le pourcentage de gens à qui vous avez dit oui et derrière, il y a eu un retrait de votre part?
Faudrait qu'on se parle entre nous, qu'on n'a pas fait, mais...
Nous, on est encore en cours là pour avancer. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a aussi des entrepreneurs qui ont eu un refus sur le plateau.
Et qui sont repêchés, entre guillemets.
Et qui peuvent après continuer la discussion avec les investisseurs. Et puis finalement, quelques semaines ou quelques mois après, il y a des investissements qui se font hors plateau.
Allez, on se retrouve dans un instant. On continue de parler de qui veut être mon associé sur M6. À tout de suite.
Sud Radio Limoges.
95.
Sud Radio. Seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally your picture becomes tainted. It's what they call the rise and fall.
I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change. Even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Thought I believed.
life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride is on the wall.
Yeah.
Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seemed to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places. And there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations. I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my heart?
Sometimes in life you feel the fight is over.
Yeah.
Over. Yeah. And it seems as though the ride is over.
The ride is I don't care, but you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be.
Sometimes in life you feel the fight is over.
And
the season's over, the ride is on.
The ride.
Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Ganzman.
Et on parle de cette émission mythique maintenant sur M6. Qui veut être mon associé? Marc Simoncini, investisseur et, on peut le dire, hein, entrepreneur de génie, même
de
si
génie,
vous avez.
Entrepreneur de durée.
Mais vous avez quand même eu des très gros succès, même si vous avez eu beaucoup d'échecs, vous nous le disiez, mais en tout cas, vous avez su vous relever et vous avez créé Mythique, entre autres, et puis cette entreprise Angel, qui a créé et imaginé ces vélos absolument incroyables. Et puis Stéphanie Delestre, vous aussi, vous avez réussi après un chemin difficile. Hein, vous nous l'avez dit, vous êtes parti de rien. Marc Simoncini aussi. Hein, et vous vous êtes battu, vous avez travaillé. Alors, il y a des gens qui disent, oui, nous aussi, on travaille beaucoup, c'est sûr. Mais il faut savoir que c'est pas, quand vous arrivez sur le plateau, c'est toute une vie aussi d'investisseurs,
changer la vie des gens.
Voilà, et c'est ça aussi qui est important, c'est de montrer que c'est possible. On peut aujourd'hui en France créer, monter des start-up, monter, mais que ça prend du temps. C'est ce que disait Marc Simoncini, c'est pas l'argent tout de suite, ou alors c'est vraiment l'idée de génie qui et c'est aussi ça qui est transmis dans l'émission.
Oui, c'est ça. Alors, pour moi, la valeur travail, elle est importante parce que j'ai toujours beaucoup travaillé. C'est vrai que c'est pas un gage de succès. Il faut aussi avoir le réseau est important, les rencontres sont importantes. La niaque, c'est important. Et puis, je suis d'accord avec Marc, la durée. Hein. Moi, avant, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un grand groupe média, qui est le groupe TF1, où j'étais entre guillemets intrapreneur. Après, je suis allée dans une start-up à Hambourg, donc il fallait aussi partir à Hambourg pendant 3 ans. Voilà, et puis après, j'ai monté Kappa. Là, je remonte une autre société qui s'appelle Volubile. Mais c'est vrai que quelquefois, on est souvent un peu noyé par les réseaux sociaux où on nous dit ça peut aller très vite. Si tu suis ma formation, tu vas gagner 10 000 euros. Oui,
attention aux escrocs.
Ou tu vas devenir milliardaire en 3 ans.
Voilà, investisseur.
Voilà. C'est pas le cas du tout. Et puis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, c'est une espèce d'alchimie qu'il faut arriver à gérer.
Alors évidemment, Valérie, dans une émission de télé, il y a forcément des personnages. Alors, on a connu Anthony Bourbon, qui, lui, est là pour faire du flouze et du pognon. Mais il y a aussi maintenant son pendant féminin qui est arrivé, Kelly Massol. Alors, elle sort les billets. Et donc là, je vais vous mettre un extrait où il y a une jeune entrepreneuse qui utilise l'IA, qui a inventé un concept d'intelligence artificielle. Tous les entrepreneurs vont évidemment être intéressé par cette invention, mais Kelly Massol va sortir un peu le carnet de chèques, mais Marc Simoncini ne va pas se laisser faire. Écoutez.
Je vais vous proposer un demi-million d'euros pour 15%.
Waouh.
Vache.
Ce qui vous fait une valorisation à 3,3 millions d'euros, si je ne me trompe pas dans mes calculs.
Voilà, donc il y a cette proposition. Il y a la proposition de Tony et de Jean-Pierre. Moi, ce qui m'embête, c'est de pas vous faire de proposition parce que c'est un pari total sur vous et je l'ai déjà fait. Et je pense que, honnêtement, que je peux vous aider. Après, est-ce que ça serait une bonne opération financière pour moi? J'en sais rien. Donc, ce que je vais faire, je vais vous proposer de mettre un ticket à 100 000 comme eux. Donc, vous pourrez choisir la combinaison qui vous arrange. Je la fais parce que ça m'aurait ennuyé de vous laisser partir sans vous en avoir fait une.
Merci beaucoup.
Jeanne, est-ce que c'est clair pour vous, les propositions?
C'est très clair, les propositions. Et merci pour vos propositions et merci aussi pour avoir argumenté lorsque vous ne faisiez pas de propositions.
Elle a choisi l'argent. Elle est partie avec Kelly. Mais parce qu'aussi, elle a dit que c'était une femme entrepreneuse et elle pense que les entrepreneurs et les entrepreneuses ne sont pas... Ce n'est pas la même façon de travailler avec une femme et un homme, vous êtes d'accord?
Alors, je ne me suis jamais associé avec une femme pour créer une start-up. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais par contre, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes qui étaient mes DG, directrices financières, etc. Mais donc, je ne peux pas répondre à cette question.
Pourquoi?
La vie a fait que je n'ai pas rencontré d'associés de femmes quand j'ai créé. Mais moi, j'ai créé, c'était il y a 40 ans, donc il y en avait moins aujourd'hui.
Et Stéphanie?
Deux entrepreneuses.
Une différence Je pense pas.
Je pense pas.
Moi, je l'ai dit, j'ai été très peu soutenue par des femmes.
Ouais.
Pardon, je vais me faire houspiller. Tout mon parcours a été accompagné par des hommes et j'ai jamais fait la différence. Et je pense sincèrement que dans le milieu de l'investissement et de l'entrepreneuriat, oui, il reste encore des choses à faire. Moi, en particulier, mon combat, c'est que les jeunes filles se dirigent vers des métiers, par exemple, d'informatique, parce que c'est des métiers qui sont pas si compliqués que ça à l'école et qui sont très bien payés à la sortie, où il y a du boulot pour les 30 prochaines années. Donc, il est là mon combat de communiquer là-dessus en disant aux jeunes filles, aux jeunes femmes, n'hésitez pas à choisir ces filières-là parce qu'il y a du boulot, c'est très bien payé et je pense que vous pouvez vraiment vous éclater. Après, devenir entrepreneur, c'est tellement personnel et c'est tellement un chemin de longue haleine que je suis pas sûre que le sexe fasse quelque chose. Quoi.
Est-ce qu'il vaut mieux investir un petit peu sur plein de projets ou beaucoup sur un seul projet?
Alors, la réponse, c'est Xavier Niel qui l'a donné. Hein. Ouais. Il a investi dans toutes les startups qui sont créées ou presque. Et il a gagné de très très loin à la course.
Donc,
il vaut mieux mettre un peu d'argent sur plein de projets que beaucoup d'argent sur un projet.
Ça paraît logique, mais vous pouvez gagner plus si vous êtes sûr de
votre... Oui, vous pouvez, c'est comme les rencontres. Vous pouvez faire une rencontre et épouser la première femme que vous rencontrez dans votre vie ou essayer jusqu'à ce que vous trouviez la bonne.
Est-ce que des personnes comme vous, Xavier Niel, vous pensez être assez soutenues par l'État?
Bien sûr. Alors, il y a un stade où ça ne sert plus à rien, mais quand on a débuté, mais la bascule, elle a été, je suis désolé de le dire, je le dis à chaque fois, je ne me fais pas des copains, mais la bascule dans l'entrepreneuriat en France, elle a vraiment eu lieu quand Macron est arrivé. Parce que ce qu'a fait Hollande avant, c'était un désastre pour nous. On a tous failli partir, on a eu le mouvement des pigeons, on était taxé à 63% quand on vendait notre boîte, on était considéré comme ayant gagné des salaires. alors qu'on prenait tous les risques dans la vie et qu'on n'avait pas le chômage, si on se plante, enfin, je veux dire, bon. Donc, quand Macron est arrivé, il y a eu plein de, et il y a eu surtout cet événement majeur qui a été la création de la BPI, qui a épaulé des dizaines et des dizaines de boîtes, qui a insufflé beaucoup d'argent, d'énergie, dans les startups et qui a créé tout un écosystème quasiment complet maintenant qui nous permet d'avoir des financements au début, au milieu, à la toute fin et des sorties potentielles sur des grands groupes ou en bourse. Donc, on a cet écosystème en France. La France est devenue une start-up nation. Alors, ça peut faire rigoler les gens qui ne nous aiment pas. En attendant, on a créé un écosystème complet qui rivalise avec les plus grands pays du monde.
Et une petite info pour tous les auditeurs et les auditrices de Sud Radio. En ce moment, justement, il y a une aide qui s'appelle Tremplin. Vraiment aller sur internet, taper tremplin BPI pour les jeunes ou moins jeunes entrepreneurs, beaucoup issus des quartiers justement qui n'ont pas le réseau pour les aider, et cette aide elle est en ce moment là dispo, mais il y en a vraiment tout au long de l'année. Et moi je confirme, hein, la France aujourd'hui est le pays pour tous les jeunes et les nouveaux entrepreneurs. Donc allez-y, tout est disponible sur internet, et il y a des aides quasiment tous les mois disponibles pour nous aider à tous les stades.
Vous dites jeune, on est forcément jeune.
Non, j'ai dit jeune et nouveau. Oui. J'ai dit jeune et nouveau.
Oui, mais on est forcément jeune quand on entreprend.
Non, les gros succès, c'est à partir de 45-50 ans. Hein. Souvent, les grosses startups, elles sont montées par des mecs qui ont 40 ou 50 ans.
Ah ouais,
c'est
parce logique. Qu'on a l'expérience.
Ils ont l'expérience, ils ont les compétences.
Après, les jeunes, ils ont aussi la créativité, voilà, ils ont l'énergie, etc. Donc ça, ce sont des aides à la création d'entreprises et au développement.
Et vraiment, moi, pour avoir pas mal travaillé dans des startups, principalement en Europe, la France est le pays le plus généreux et qui comprend le mieux les besoins des entrepreneurs. Donc, pour tous ceux qui ont envie, n'hésitez pas, allez sur internet, vous avez toutes les infos.
Quelle est votre plus belle aventure, Marc Simoncini, dans ces 4 ans d'émission? Quelle aventure, à qui vous êtes content d'avoir investi?
Alors, ouais,
et quelles sont vos plus belles
aventures? Vous allez me demander dans ma vie, là, je me vide ensemble. Donc, merci pour cette question qui n'en est pas une. Donc, de très loin, c'est Helio Water. Voilà. Les sphères qui permettent de nettoyer l'eau et de la rendre consommable alors qu'elle ne l'est pas. Tout ça avec du soleil. C'est une boîte formidable, enfin voilà, qui m'a beaucoup touché. Alors c'est un destin, je raconte, je suis désolé parce que les gens pensent que c'était fake, mais je ne devais pas assister à cette émission.
Ah oui, on vous a fait venir.
J'étais en train de déjeuner, je voulais regarder les copains en train de faire l'émission, et je dis tiens, cette année j'ai pas investi dans grand chose, il y a rien qui m'a touché, je voulais faire que des trucs écolo. Et il y a un assistant qui passe là et qui me dit bah tiens, c'est con parce que le truc d'après c'est vraiment très écolo. Je dis, ah merde, et on se dit, bah tiens, t'as qu'à y aller. Donc j'ai hacké le truc, je suis arrivé, j'étais en jean, ils m'ont collé un micro en 5 minutes et j'ai fait la plus belle boîte pour moi, qui m'a le plus touché, qui est Helio Water et qu'on développe partout dans le monde. Et si ça marche, ça va être extraordinaire. Je vous donne un exemple, potentiellement l'Inde, dont le Gange n'est pas l'eau n'est pas consommable, se dit, si j'installe des sphères tout le long du Gange, qui avec du soleil nettoie l'eau et qui fait 30 litres d'eau pure par jour. Déjà pour le Gange, c'est formidable, pour les Indiens c'est dingue, et pour la boîte, je vous imaginez même pas. On fera pas, mais pourquoi pas.
Stéphanie, vous restez vous dans vos investissements, peut-être même en dehors de l'émission, sur votre domaine d'activité, où vous pouvez investir sur les poussettes ou autre.
Alors c'est vrai que je suis plutôt B2B et tech, moi, en fait, ce qui me bluffe, c'est quand je me dis, mais d'abord, c'est évident, pourquoi j'y ai pas pensé? Marc en a parlé tout à l'heure. Et puis après, dans ma tête, je me dis, lui, je connais telle personne, donc il va pouvoir signer avec telle personne. Je vais pouvoir l'aider sur tel sujet. Donc, quand même, je reconnais que intérieurement, mon cerveau, il se dit, comment tu vas pouvoir les aider? Là, si je vois vraiment des choses très fortes, j'y vais.
Bon. Et vous avez investi dans quoi récemment? Dans ce qui a été diffusé.
J'ai investi dans Cup d'Homme, qui est des préservatifs pour verre. Là, on y est allé finalement.
Pour éviter le GHB, les choses en boîte de nuit.
Alors,
ça
marche. Deuxièmement, ces deux petits jeunes, ils ont 21 ans. Ils sont ultra malins. Je pense à eux, et Elia et Aloïs. Et puis, en fait, il y a des moments, moi, j'ai été jeune, j'adore sortir, j'adore manger, j'adore. j'adore boire. Donc je me suis dit, si j'avais eu ça, un peu comme quand on a eu les préservatifs au milieu des années 80, je me suis dit, ouais, c'est important,
et
c'est important
à avoir
de les
des
soutenir.
Contrats, des festivals,
ouais, ils sont en discussion avec des députés, mine de rien, parce que c'est un sujet quand même. Voilà. Et le deuxième sujet, c'est oui, des breakdancers qui ont créé un jeu de cartes.
Ah oui,
et en fait,
aussi.
Là, pareil, c'est mon passé chez Eurosport. Les dessins sont dingues. En fait, là, dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, bon, il y a les JO avec la première fois le breakdance aux JO de Paris. Ouais. Deuxièmement, la déclinaison est infinie. On peut créer des écoles, etc. Et puis surtout, j'ai mon neveu, Naël, qui finalement me parlait de ce qu'il faisait le mercredi après-midi et tout. Et je me suis dit, pour les jeunes aujourd'hui, il y a des trucs tellement chiants que le breakdance dans les cours de récré, voilà, ça fait faire du sport, ça leur donne de la bonne énergie, c'est sympa. Donc voilà. Et puis là, d'autres qui vont arriver dans les émissions à venir, parce qu'il y a encore plein d'émissions là tous les mercredis soirs sur M6.
Un mot sur Angel, sur les vélos.
Alors à Angel, on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. On est rentré dans le monde automobile, c'est-à-dire qu'on a été choisi par un constructeur automobile que je le cite, c'est Mini, BMW. Ouais. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, on est 40 et on a signé avec un groupe. Au siège, ils sont 71 000. Ouais. Voilà. Et donc on est en train de faire des vélos pour Mini et de développer nos vélos dans toutes les concessions Mini du monde. Ouais. Alors on commence évidemment par l'Europe. Donc ça nous a vraiment fait on dormait pas du tout, mais là on dort pas du tout quoi.
Donc là vous passez à un niveau industriel.
Là on passe dans un autre monde. Donc, faut pas rater la marche quoi.
Bravo à vous, merci Marc Simoncini, merci Stéphanie Delestre d'avoir été avec nous. Et dans un instant,
si vous regardez M6, sachez que vous pouvez candidater pour la prochaine saison, puisqu'il y a plein de bandes annonces qui passent en ce moment sur M6 pour trouver qui veut être mon associé. N'hésitez pas, vous allez sur le site d'M6.
Merci pour l'info. Nous, on se retrouve en direct pour commenter l'actualité dans quelques instants. À tout de suite.
Sud Radio Biarritz.
103.9.
Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, le 1er mai, nous sommes là en direct avec vous, Sud Radio est sur le pont, tout à l'heure André Berkoff sera là ce matin, l'ami Jean-Jacques Bourdin également était là, et nous travaillons le jour de la fête du travail, et les débatteurs qui sont là sont les courageux du jour, Arnaud Benedetti, bonjour.
Bonjour.
Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et vous venez tout juste de publier « Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire », avec un point d'interrogation, on le précise. Et c'est paru chez Michel Lafon.
Toujours préciser.
Oui. Mais en même temps, l'inéluctable victoire, bon. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, bonjour. Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, bonjour à vous. Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum Transatlantique.
Et puis, nous sommes là le 1er mai, c'est que nous croyons, enfin moi je le redis, je crois en la valeur travail.
Eh bien, vous avez entièrement raison.
Donc je fête cela en étant avec vous.
Eh bien, nous fêtons le travail aujourd'hui. 1er mai, le Rassemblement National ne fête plus Jeanne d'Arc. Et on va en parler avec vous dans un instant, Arnaud Benedetti. On va rentrer un peu dans le détail de votre livre, parce qu'on voit que dans les sondages, le Rassemblement National est très très loin devant les autres partis en ce qui concerne en plus tout ce qui est prévision pour les européennes. Le salaire des grands patrons, faut-il plafonner l'écart de rémunération? Vous avez peut-être vu ces chiffres hier qui effectivement pose question et amène à réfléchir. Les écrans avec le gouvernement qui veut interdire avant 3 ans, est-ce que c'est le rôle du gouvernement? Est-ce que c'est le rôle de l'État de légiférer ou de donner des consignes qui ne seront de toute façon difficilement applicables? Et Éric Dupond-Moretti qui veut sévir contre les agressions et les pratiques non religieuses pour non pratiques religieuses. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Arnaud, c'est un livre.
D'un des contributeurs réguliers de la revue politique et parlementaire, un professeur de droit, de sciences politiques et de relations internationales. Charles Orbib, un des meilleurs spécialistes, d'ailleurs français des relations internationales, qu'on ferait bien d'inviter parfois sur les plateaux de télévision, parce qu'il a toujours une vision très documentée, très cultivée des affaires. Et il vient de sortir un livre aux éditions du Cerf qui s'intitule « Égérie et conseiller de l'ombre dans le secret des princes ». Alors il avait publié il y a quelques années un livre sur les éminences grises, Là, il sort un livre un peu à nouveau sur ce même thème, et c'est une série de portraits sur un certain nombre de personnages historiques qui ont joué un rôle essentiel auprès d'un certain nombre de grands de ce monde. Alors, il traite de la princesse Adélaïde, sœur de Louis-Philippe, il traite de Madame de Staël auprès de Talleyrand, il traite bien sûr de Georges Mandel, qui lui quand même était un peu plus dans la lumière auprès de Georges Clemenceau. Ça fourmille d'anecdotes, mais si vous voulez, au-delà de l'anecdote, parce que c'est quand même un historien, il essaye de comprendre comment finalement la décision aussi politique se construit à partir des échanges avec les entourages très proches des grands de ce monde, et à travers en effet une espèce de fresque historique. Je le conseille parce que d'abord c'est en termes de culture générale toujours très intéressant d'avoir quelqu'un qui a une très grosse culture générale et qui nous apprend des tas de choses, et puis ça se lit très bien parce que Zorgwib fait partie de ces universitaires qui ont un style extrêmement limpide et qui savent rendre accessible un certain nombre de sujets. Donc c'est un très 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 bon livre, comme tout ce que fait d'ailleurs Charles Zorgwib. Voilà, donc j'avais ce petit coup de cœur, ce gros coup de cœur pour ce monsieur qui d'ailleurs aujourd'hui doit avoir près de 90 ans, mais qui va très bien.
Égérie est conseiller 95. De l'ombre dans Le secret des princes de Charles Zorgwib.
Et les éminences grises étaient remarquables aussi.
Absolument.
Il a fait une biographie de Kissinger qui est une des références d'ailleurs dans le domaine. Vraiment, c'est...
Je connais évidemment le professeur Charles Zorgwib, mais je pense qu'il y a deux choses. Pour comprendre la politique, il faut aussi comprendre le mode de fonctionnement des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire politique.
Évidemment.
Et ce qu'il nous manque, et je sais que vous reviendrez pour parler des écrans tout à l'heure, ce qui nous manque, on le voit bien, c'est une culture historique, une culture politique que nous tendons à perdre aujourd'hui, et on a beau regretter un certain nombre de choses, quand on fait de la politique émotionnelle, on oublie de relire, de lire et de s'enrichir des fondamentaux.
Pour revenir au livre.
Oui, pour revenir, absolument.
C'est un message.
Et donc, Égérie est conseiller de l'ombre dans Le secret des princes de Charles Zorgwib, et c'est aux éditions du Cerf. À tout de suite.
Sud Radio Monaco.
97.9.
Sud Radio.
We'll be right back.